Vous écoutez
RMC.
On va parler rugby dans les GG, puisqu'on l'a appris cette semaine, le serpent de mer de la Coupe du Monde des clubs persifle plus que jamais, selon nos confrères de la presse britannique. La première édition devrait donc se tenir en 2028. Tous les 4 ans, un tournoi étalé sur un mois qui réunirait 16 clubs, 8 issus de l'hémisphère nord, dont l'Afrique du Sud, soit les formations désormais éligibles à la Champions Cup, anciennement Coupe d'Europe. 6 formations de l'hémisphère sud, les équipes qui viennent du super rugby, néo-zélandaise et australienne, ainsi que les 2 meilleurs clubs japonais. Objectif, aller chercher des nouveaux sponsors, de nouveaux droits télé, en gros un petit peu d'argent frais pour un sport qui souffre financièrement, notamment certaines fédérations depuis la crise du Covid en 2020, notamment une innovation de plus dans ce sport qui, je vous le disais, tente de trouver un nouveau modèle et un nouvel équilibre financier. À ce titre, l'intégration depuis la saison dernière des franchises sud-africaines au tableau des 2 Coupes d'Europe est déjà vivement critiquée. Dans le coin droit, il pense que ces innovations vont tuer le rugby, Sarah Pitkowski et David Douillet. Dans le coin gauche, il pense au contraire que ces innovations vont contribuer à sauver le rugby, Christophe Cessieux, Olivier Giraud. C'est parti pour le bras de fer des grandes gueules.
RMC.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant ?
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame ?
Alors avant de vous laisser vous expliquer autour de cette question, on va accueillir Romain Asselin de la rédaction RMC Sport. Salut Romain.
Salut les grandes gueules.
Salut Romain.
Romain, on rappelle, tu seras au commentaire tout à l'heure de la rencontre entre le Leinster et La Rochelle. C'est un grand week-end de Coupe d'Europe, enfin de Coupe d'Europe, de Champions Cup, sur l'antenne de RMC. Tu es, toi, au plus près chaque week-end, on le vit tous les samedis, tous les dimanches avec toi en top 14, au plus près des acteurs du rugby français, qui ne sont pas vraiment fans de cette ouverture du rugby continental aux franchises sud-africaines.
Et ce n'est pas le dernier épisode en date du feuilleton qui va apaiser les griefs. Ça fait beaucoup réagir cette semaine. Les Bulls se sont vus affréter 8 avions différents pour rallier l'Angleterre et acheminer au compte-gouttes l'équipe qui affronte Northampton ce soir en quart de finale. Une équipe bis en plus, 14 changements par rapport au 8e. Est-ce que vous avez une idée, les GG, de la facture totale du déplacement ?
C'est énorme.
200 000 euros. 200 000 euros pour un quart où les dés semblent déjà pipés avant même le coup d'envoi. Alors le directeur du rugby des Bulls, Jack White, qu'on connaît bien en France, pointe du doigt la fédération sud-africaine qui a soumis les projets de voyage. Ça ne tient pas la route. Si on veut être la meilleure équipe du monde, c'est ce qu'il dit, il faut faire les choses correctement. Réponse de la Fédé qui dit en gros, vous êtes bien gentils les gars, 48 heures avant le départ, on ne savait rien du déplacement. C'est vrai, l'affiche et la programmation sont tombées dimanche soir. Bref, tout ça, ça fait quand même doucement rigoler le manager de Toulouse, Hugo Mola.
L'équité, elle est à la base de la compétition. On n'est pas surpris de l'éloignement de l'Afrique du Sud avec l'Europe. Moi, c'est comme quand les joueurs se plaignent du Boxing Day. Et regardez le calendrier au mois d'août. Commencez à vous plaindre maintenant et puis vous vous plaindrez à la fin. Après Jack White, je comprends le périple qu'il est en train de vivre et de l'accompagnement pour aussi voyager dans de bonnes conditions. Après, peut-être que l'anomalie, c'est juste que les Sud-Africains jouent une Coupe d'Europe.
Et il y a aussi l'aspect aberration écologique qui est soulevé par les détracteurs, ils sont nombreux. Alors à vol d'oiseau, plus de 10 000 km séparent Pretoria en Afrique du Sud de la banlieue de Londres. C'est sans compter, je vous épargne les escales et les détours faits par les Bulls, par le Qatar par exemple. On a demandé hier à Grégory Aldrit si cette compétition avait encore du sens en l'état. Le capitaine de La Rochelle et du 15 de France regarde la situation d'un œil, disons, plutôt impuissant.
Qu'est-ce que je te dis, c'est comme ça, de toute façon, il faut qu'ils aillent au bout de leurs idées et ils sont obligés de faire jouer le match, donc ils mettent tous les moyens en œuvre pour que ça se réalise. Après c'est sûr que ça peut paraître beaucoup de sous-dépenser, mais voilà, c'est les phases finales et qu'on peut pas prévoir à l'avance, donc compliqué. Mais bon, chacun ses soucis, j'ai envie de dire, je leur laisse.
Eh oui, parce que La Rochelle a un peu d'autres chats à fouetter à l'instant T avec ce quart de finale à Dublin cet après-midi, 18h30 face au Leinster, une finale avant l'heure. Mais en même temps, le double tenant du titre vient de subir de plein fouet les conséquences de l'intégration des franchises sud-africaines avec un huitième de finale joué au Cap face aux Stormers samedi dernier, le même déplacement qu'en poule d'ailleurs, périple de quelques 20 000 km aller-retour. Résultat, eh bien une semaine de préparation mutilée avant ce choc des titans. Écoutez bien le manager rochelais Ronan O'Gara, il met un petit tacle au passage aux Bulls, taxé quelque part de balancer presque leur quart de finale aux dépens de leur championnat domestique.
On a passé 40 minutes sur le terrain mardi, 40 jeudi. On a déjà fait le voyage Afrique du Sud deux fois. On est un peu partout. Il y a des autres qui choisissent une different équipe pour prioriser les URC, you know. So, tu dois aussi poser la question pourquoi Stade Rochelet et Leinster sont dans un quart de finale. C'est un peu bizarre parce que c'est deux équipes qui peuvent gagner le tournoi. Ça, c'est sûr. Il y a un autre, un ou deux sur huit, je pense, que peut aussi gagner, mais il n'y a pas six autres équipes qui peuvent gagner.
En gros, Gara, il dit aux Bulls, non seulement vous envoyez une équipe bis pour jouer un quart factice, mais en plus, dans le même temps, il y a un cador qui va rester sur le carreau, La Rochelle ou Leinster.
C'est bien, alors, c'est sachez... bien que tu traduises, Romain, parce que quand même...
Parfois, il faut recontextualiser, on est d'accord. Hein. Sachez les grandes gueules avant de débattre qu'il y a une possibilité que La Rochelle et les Bulls se croisent en demi-finale, ce serait début mai. Le cas échéant, ce serait pas en Afrique du Sud, pas une troisième fois pour La Rochelle, le match aurait lieu au Royaume-Uni.
Merci beaucoup Romain Asselin qui sera au commentaire de la rencontre entre le Leinster et La Rochelle, ce classique désormais de la Champions Cup, l'équivalent de la Ligue des Champions hein, pour le rugby. Vous n'en manquerez pas une miette sur l'antenne de RMC. Bordeaux-Bègles, Harlequin, c'est à 16h. Northampton Bulls, donc de Pretoria à 21h. Et puis en challenge, hein, l'autre Coupe d'Europe, Clermont reçoit l'Ulster à 13h30. Tous ces matchs sont à suivre évidemment en fil rouge sur l'antenne de RMC. Romain, tu peux rester avec nous éventuellement si tu veux intervenir dans ce débat. Je donne la parole à Christophe. Alors j'étais un petit peu surpris lorsqu'on m'a envoyé les réponses. Toi, tu penses que ces innovations, on rappelle, hein, je parlais de la Coupe du Monde des clubs également qui verra le jour en 2028, elles sont bonnes, elles sont au moins inévitables selon toi pour le rugby.
C'est surtout, je dis pas qu'elles sont bonnes, mais je pense qu'elles sont indispensables si le rugby de club dans le monde veut continuer à exister. C'est quoi l'économie du rugby de club dans le monde ? En France, tu as un rugby club très puissant avec le championnat, le top 14 qui se suffit à lui-même, qui existe. C'est une tradition française et ça fonctionne très bien. Ça a toujours très bien fonctionné avant même qu'on institue une Coupe d'Europe. En Angleterre, tu as aussi un championnat, mais un championnat qui a sérieusement morflé avec la crise du Covid. Plusieurs clubs ont fait faillite et aujourd'hui, ils sont un peu tendus, ils sont un peu à la limite financière et ils ont donc besoin de cette Coupe d'Europe pour redorer leur blason et surtout enrichir leur économie. Et puis,
ils ont trois clubs en quart de finale, hein, d'ailleurs. Les Anglais, c'est première depuis 2016.
Ouais, ça faisait très longtemps qu'on ne les avait pas eus à ce niveau-là. Et puis, le reste des pays, bah, c'est plus compliqué. Les franchises galloises sont quasiment inexistantes. Les franchises italiennes, n'en parlons pas. Les Écossais ne sont pas terribles. Il y a l'Irlande qui a quatre équipes. Mais enfin, ce n'est plus vraiment des clubs. Ce sont des franchises, des sélections de provinces. Ouais. Et puis, de l'autre côté, bah, tu as l'Afrique du Sud qui est un peu sur ce même modèle. Et si on veut que ce rugby qui a quand même donné de belles choses, je veux dire les affrontements entre le Leinster et La Rochelle, les deux dernières finales et le match auquel on va assister cet après-midi, c'est devenu aujourd'hui un truc indispensable.
C'est tellement bien qu'ils se retrouvent en quart. C'est un peu une hérésie quand même.
Oui, parce
tu vois ce que je veux dire, c'est que si tu veux que ton rugby fonctionne,
tout ça, c'est très très mal foutu. Je suis d'accord avec toi, Sarah.
C'est pour attirer les télés, c'est de créer des duels, du storytelling où tu retrouves ces grandes équipes qui t'ont fait vivre ces émotions. Et à force de tout remettre dans un énorme saladier, de mélanger, d'essayer d'inventer des choses, mais t'en perds ton latin. Ouais. Alors je sais pas si ça va tuer le rugby, mais alors la solution là.
Elle est assez catastrophique.
T'imagines dans 4 ans,
et même en termes de développement durable, tout ça, c'est une catastrophe.
Mais ça ne tient pas la route.
Au bout du tuyau, y a quand même des gens qui regardent, qui consomment le rugby et qui influencent les droits. Les droits télé, les droits de transmission, etc.
Oui, c'est là où c'est le nerf de la guerre.
Et aussi... qui vont influencer les futurs partenaires sur la pertinence d'investir sur tel ou tel club ou le rugby au sens large. Si la lecture d'une compétition, ce qui va être le cas à mon avis, hein,
déjà le
d'un
cas...
championnat d'Europe qui n'en est plus un, d'une Coupe du Monde de clubs où les Français qui aiment le rugby, je ne suis pas sûr qu'ils connaissent tous les clubs de chaque pays, etc. etc. Si les principaux consommateurs au bout du tuyau ne se sentent pas concernés, ne se sentent pas accaparés par une compétition captivante, puisque le rugby est quand même un sport de territoire, ça prendra jamais. Les droits vont pas se vendre cher, les annonceurs ne vont pas payer très cher, et tout ça va s'aplatir.
La conséquence, c'est que cette Champions Cup là, les stades en Afrique du Sud sont vides, sont totalement vides, et les clubs sud-africains, ils envoient des équipes B. Enfin, je veux dire, ils peuvent déjà tirer des leçons de ce qu'ils ont voulu faire en tentant d'ouvrir cette Coupe d'Europe. Ils ont déjà des conséquences qui sont négatives, et donc ils vont inventer quelque chose supplémentaire. Et quand on va en 2028, on va arrêter la Champions Cup en huitième de finale pour aller prendre les clubs pour faire la Coupe du Monde des clubs. Il faut un dictionnaire. Il y a un problème dans ce sport, c'est qu'il est tellement éclaté dans les pays du monde qu'il est très difficile à rassembler. Inégal. Est-ce que tu, dans la présentation,
qu'est-ce que vous voulez alors? Vous voulez qu'on revienne au top 14? Vous voulez qu'on revienne au championnat de province?
Mais j'ai pas de solution.
Vous voulez que Mont-de-Marsan affronte Dax?
Christophe, tu disais le top 14. En fait, on est en train d'aspirer vers le bas, le top 14.
Je pense qu'ils ont raté leur feuille de route. C'est complètement raté, mais je pense qu'on est obligé, si le rugby veut continuer à s'internationaliser...
Oui, mais cette solution, c'est pas la bonne, on est bien d'accord.
Un sport, c'est pas que le haut niveau, attention, hein. C'est ça.
Ils ne développent pas les pays qui jouent pas.
Là, on parle de haut niveau, on ne parle pas des...
Oui, mais le haut niveau découle de quoi? Découle du sport de masse. Or, si tu renforces pas ta base dans la pratique,
quand un papa et une maman,
quand des parents amènent leur gamin faire un sport, ils s'intéressent à ce sport, même s'ils sont pas forcément des aficionados au démarrage. Et ça te permet de créer un fond de sauce qui va aller, je parle à l'échelle du monde, hein, du monde entier, hein. Pour l'IRB, ils font une grosse erreur. Ils prennent le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'ils veulent structurer le rugby mondial à travers le haut niveau. C'est une connerie. Il faut structurer le rugby mondial à travers la base, la pratique, la qualité de pratique dans tous les pays. Et là, tu renforces ta base, là, tu renforces l'intérêt, et là, tu peux faire grandir les clubs.
Mais on parlait du rugby géorgien, du rugby roumain. Pourquoi on les aide pas à se développer pour en faire finalement des nations en plus qui vont pratiquer le rugby à haut niveau? On en a parlé quelques fois de ces pays-là.
Oui,
et pourtant, il n'y a rien.
Alors eux, leur rugby de club n'est pas invité à affronter La Rochelle, Toulouse, etc. Il faut aussi une compétition avec des équipes d'à peu près de même valeur.
Est-ce qu'il n'y a pas des investissements?
Quand tu vas affronter les franchises sud-africaines, je suis désolé, même si elles envoient parfois des équipes bis, mais enfin la semaine dernière, on a eu des matchs.
Mais si tu cherches à international,
l'intérêt d'un match de haut niveau, c'est que les deux équipes sont à peu près du même niveau.
À long terme. La vision à court terme n'est pas à long terme.
Oui, mais à long terme, je suis désolé, mais à long terme, il n'y aura plus de sport de haut niveau. Il n'y aura plus de déplacements internationaux. Si tu parles sur le long terme. Mais parce que tu crois que les tennismen qui font le tour du monde, qui partent à 150 en Australie, en Afrique du Sud, tu crois que ça aussi, ça existera dans 20 ans? À long terme, je pense que tous les sports de haut niveau sont condamnés.
Par le transport.
Exactement. Alors,
c'est le bilan.
On va demander à tout le monde.
Pas propre, Christophe, d'ici là. Oui. T'inquiète pas.
S'il y a des avions à hydrogène,
bien sûr.
Olivier, on t'a pas encore entendu sur le sujet.
L'IRB, moi, c'est...
L'IRB International Rugby Board, voilà. On précise, l'équivalent de la Fédération Internationale.
On discute de plein de trucs, mais moi, je vais plutôt partir de là. Je pense qu'à l'IRB, il y a une chose qui ne leur plaît pas du tout. C'est que le plus grand championnat du monde... ils soient français, les meilleures organisations de Coupe du Monde et celles qui rapportent de l'argent.
Doucement sur celle-là, mais qui ramène
du monde. Les meilleurs organisateurs aujourd'hui, je suis désolé, ce sont les Français. Mais par contre, l'hégémonie politique,
dis pourquoi,
elle est pas française.
Non mais là, je suis pas d'accord avec toi.
Dis pourquoi on est les meilleurs.
Parce qu'il y a des gens qui ont organisé pour qu'on soit bon.
Oui, non mais parce qu'il y a des clubs dans lesquels il y a des gamins, des gens qui se sentent concernés, qui consomment le rugby.
Le modèle français, si tu regardes même la Pro D2, tu parlais des clubs sud-africains de première division où les stades sont vides. en France, les stades sont pleins.
Oui.
C'est-à-dire que la France a
parce
réussi
qu'on a
ce pari.
Vraie tradition de rugby.
Oui, mais c'est ce qu'ils n'ont pas les autres pays. C'est ce qu'il faut construire. Et ça se construit dès la base. Ça ne se construit pas par le haut niveau, au démarrage. Au démarrage, une culture se construit à travers des gens, des familles, des enfants qui viennent comprendre et apprendre le rugby.
Mais David, en Afrique du Sud, le rugby se pratique aussi à bas niveau.
Non, mais il n'y a pas de L'Afrique du Sud n'existe que tous les 4 ans. C'est-à-dire que oui, ils ont pris les Coupes du Monde.
Mais ils existent bien.
Oui, mais en dehors de ces 4 ans,
donc ça veut dire que les joueurs tombent du ciel comme ça. Ils arrivent du ciel et ils sont champions du monde tous les ans.
Ils arrivent pas du ciel.
Parce qu'il y a une formation en Afrique du Sud, parce qu'ils jouent dans les clubs avant de jouer en sélection.
Une culture.
Oui, mais la culture du sport, tu confonds culture et haut niveau. C'est deux choses différentes. Tu peux avoir un haut niveau qui fonctionne très bien et une culture qui est atone et des gens qui ne consomment pas le rugby et qui n'alimentent pas le modèle économique du rugby.
L'Afrique du Sud, je finis, était un sport uniquement blanc pendant des centaines d'années.
Oui.
Et petit à petit, de par les réformes qui ont été faites en Afrique du Sud, de plus en plus la population noire est arrivée aux commandes et aujourd'hui, tu as des équipes vraiment mixtes et c'est l'une des réussites du rugby sud-africain. Me dire qu'il n'y a que le haut niveau en Afrique du Sud, non. Les gamins, ils vont les chercher dans les townships et ils les forment devenir des rugbymen. Je veux dire, c'est quelque chose qui fonctionne.
J'avais parlé de l'Afrique du Sud, c'était pas du tout pour dire les blancs, les noirs, non, ça n'a rien à voir. On parlait de la question qui était posée à la base. Est-ce que ces innovations sont positives ou pas? Ces innovations, elles sont poussées parce que le discours général, et tout le monde le sait, le rugby fonctionne bien, mais le rugby n'est pas universel. C'est rendre le rugby universel.
Oui,
et c'est
une question. Ils veulent que ça ramène de l'argent. L'IRB, c'est déjà remplir les caisses. C'est ça leur première question.
Mais ça va avec. Ça va avec. Et pour ce faire, tu as besoin qu'il y ait des championnats mondiaux. Et en fait, c'est. Est-ce que c'est la fin de la Coupe d'Europe?
Tu peux faire tous les championnats.
On parlait de la Coupe d'Europe. Est-ce que cette Coupe d'Europe, elle intéresse vraiment?
Une Coupe d'Europe
à la fin, on se retrouve toujours avec les mêmes équipes.
Avec des clubs d'un autre continent.
Elle avait déjà du mal à susciter quand même de l'intérêt avant l'ouverture à des franchises sud-africaines qui, je suis d'accord, dénature un petit peu le concept de Coupe d'Europe.
Et là, est-ce qu'elle s'est encore plus affaiblie ou elle est juste restée au même niveau?
Eh ben, on va poser la question à Laurent, supporter de La Rochelle, qui a fait le 32-16 parce qu'il veut intervenir dans ce débat. Bonjour Laurent.
Bonjour à tout le monde. Bonjour.
Laurent, supporter de La Rochelle, on rappelle que La Rochelle est allée s'imposer le week-end dernier sur la pelouse des Stormers, donc en Afrique du Sud. Quel est ton sentiment, toi, sur le débat là, auquel tu veux participer?
D'abord, je vous écoute attentivement. Moi, je suis un supporter de rugby pour La Rochelle depuis la fin des années 2000, quand on était en Pro D2. Puis après, je vais régulièrement à Marcel de Flandre. Je ne suis pas Rochelais, je vis au Sable d'Olonne. Et moi, j'ai un sentiment un peu bizarre depuis 2-3 ans par rapport au rugby. Je suis totalement d'accord avec David, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui fait l'essence même du rugby, c'est la base. C'est ce qui se passe en amateur, c'est l'esprit rugby qu'on est en train de perdre dans un premier temps, qu'on a perdu il y a quelques années en France par rapport au professionnalisme et avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire la nécessité de rentabilité, la notion capitaliste qui consiste à mettre de plus en plus de matchs pour qu'on fasse de l'argent, alors que c'est pas l'esprit du rugby. Et là, on prend les problèmes à l'envers, parce que on voudrait que le rugby soit plus populaire au niveau mondial. On voit très bien, il y a plein de pays qui ne pratiquent pas le rugby. Et c'est pas en faisant ce que fait l'IRB qu'on va permettre un décloisonnement des modes de rugby et des fonctionnements entre pays. C'est justement en travaillant sur du petit qui s'agrandit. On travaille sur la France, puis après on va travailler sur les pays autour, puis après on va aller chercher des nations qui sont émergentes comme la Roumanie, etc. Et au fur et à mesure, on va avoir une ouverture mondiale. Là, c'est n'importe quoi. Moi, je suis fan de rugby et tous les potes que j'ai, toutes les amies et des amis qui regardent le rugby me disent mais on a de moins en moins envie de le regarder. Cette Coupe d'Europe, elle nous intéresse pas. C'est devenu n'importe quoi. Et le problème, c'est que moi, je le vois aussi. J'en parlais avec un éducateur de rugby au club de rugby de ma ville qui disait mais des mômes ont moins envie de faire du rugby qu'avant parce que c'est un état d'esprit qui s'est perdu. Ça devient quelque chose. Et on voit bien, ça part dans tous les sens. Regardez ce qui se passe. Alors, je fais une analogie, mais le fait que, par exemple, Dupont et Tamac partent au rugby à 7, c'est pas simplement pour les JO, c'est qu'ils cherchent. Ils disent tiens, il y a peut-être de l'argent à faire sur le rugby à 7.
Est-ce qu'on est sûr de ça, alors? Oui.
Ben pour moi, ça part dans tous les sens. On est en train de perdre l'esprit. Et on oublie une chose. C'est le sport, c'est une pyramide. Là où je suis d'accord avec David Douillet, c'est-à-dire que La base de la pyramide, ce sont les gens qui le font en club. C'est les petits clubs le matin, le dimanche matin. Et là, on est en train de faire n'importe quoi. Et moi, j'ai peur que dans 10 ans, il y ait moins de monde qui suit.
Et oui, mais à l'international, ils ne pensent pas comme ça.
La voix de
le modèle français n'est peut-être pas un modèle que l'on peut reproduire dans d'autres pays, parce qu'ils sont structurés totalement différents.
Et puis, il y a un principe de réalité. Les amis qui se heurtent, évidemment, au grand principe du rugby de village, du rugby chez les jeunes, c'est que l'IRB a besoin d'argent et les fédérations ont besoin d'argent. Maintenant, merci beaucoup Laurent d'avoir fait le 32-16. Laurent qui va suivre quand même évidemment le quart de finale de Champions Cup, Leinster, La Rochelle, le nouveau classique à 18h30. Vous le suivrez évidemment sur RMC. Merci beaucoup à Romain Asselin qui a participé à ce débat et qu'on retrouve aux commentaires à l'antenne. Puis je précise à Christophe Cessieux que pour ceux qui aiment voir Mont-de-Marsan et Dax s'affronter, il n'y a qu'à regarder la Pro D2 puisqu'ils figurent dans le même championnat.
Moi je regarde tous les matchs.
Cher Christophe.